Monseigneur Edmond Vanstenberg, 1881-1943, et ses justes combats dans le diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron au cours des années sombres 1939-1943. Aujourd'hui, nous vous proposons la première partie de cette conférence de Ricardo Saez, professeur émérite de l'Université de Pau, conférence enregistrée le 16 juin 2018 à l'abbaye Notre-Dame de Belloc à Urte. Monseigneur Edmond Vanstenberg est né dans le département du Nord à Wynnesel le 26 avril 1881 et mort à Bayonne le 10 décembre 1943. Le 6 octobre 1939, au début de la drôle de guerre, Edmond Vanstenberg est nommé évêque de Bayonne, succédant à Monseigneur Houbault. Il est sacré à Lille le 10 décembre 1939 par le cardinal Liénard et intronisé à Bayonne le 21 décembre 1939. Le diocèse de Bayonne se trouve en zone occupée et même interdite dès juin 1940. Monseigneur Vanstenberg publie une protestation en première page du bulletin diocésain le 20 septembre 1942 contre la déportation des Juifs, à l'instar d'autres évêques de France comme Gerlier, Saliège, Moussaron, Delay ou Théas. Les autorités d'occupation interdisent le bulletin diocésain et surveillent désormais l'évêque. Son vicaire général, Monseigneur d'Aguzan, est déporté à Dachau. En mars 1943, il dénonce le service du travail obligatoire, le STO. Monseigneur Vanstenberg meurt subitement alors qu'il allait célébrer la messe le matin du 10 septembre 1943 à l'âge de 62 ans. Voici donc la première partie de cette conférence de Ricardo Saez, professeur émérite de l'Université de Pau, Monseigneur Edmond Vanstenberg et ses justes combats dans le diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron au cours des années sombres 1939-1943, Ricardo Saez.
Je veux faire ça d'une façon... bien sûr, je suis un universitaire, j'ai pas honte de le dire, j'en suis fier même, parce que mes origines ne me destinent pas du tout à devenir professeur d'université, donc je vais faire ça de façon, je pense, gentille, devant vous, et si quelquefois je m'échappe un petit peu, je vous prie de m'en excuser. Alors mon intervention cet après-midi, si elle se situe dans la logique de mes travaux, des travaux qui durent maintenant depuis une quarantaine d'années, se fonde prioritairement sur un document, qui est ce document-ci. Voilà. Donc, quatre pages que nous avons eu la bonne fortune de retrouver tout récemment dans les archives départementales des Landes. Pourquoi les Landes ? Pour une raison tout à fait simple, elle est historique. La sous-préfecture de Bayonne, il y a là un sous-préfet qui s'appelle René Schmitt, et c'est grâce à lui que ce texte a été effectivement en quelque sorte connu, parce que ce texte va transiter de Bayonne à Mont-de-Marsan, où il va être remis au préfet de l'époque, qui s'appelle René Gazagne. René Gazagne qui vient de faire, il y a maintenant 2-3 ans, surface, tristement d'ailleurs, car il est le responsable du génocide de 29 petits-enfants juifs qui ont péri dans les cendres d'Auschwitz après avoir transité au préalable par Mérignac, tout d'abord, car c'était là où on les envoyait, et ensuite Drancy, et ensuite effectivement, bien sûr, ce camp d'extermination qui s'appelait Auschwitz. Ce document que l'on va pouvoir lire, il est aujourd'hui sur Internet. Si vous tapez « Vanstenberg, Monseigneur Vanstenberg et le STO », vous l'aurez et vous aurez également ces documents que j'ai fait, donc que j'ai envoyé à la personne qui s'occupe de ce site. C'est un document qui a vécu pendant 75 ans dans la clandestinité. Personne ne le connaît tel quel. Et nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir lire dans sa texture d'origine ce texte. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'il a transité de Bayonne donc à Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan, puisque je l'ai dit, la préfecture, la sous-préfecture était rattachée. Nous avons la chance que tout ceci se passe en 1943, car je vais parler d'un texte et de façon prioritaire, c'est la prise de position extrêmement précoce, extrêmement courageuse de Monseigneur Vanstenberg face au STO. Monseigneur Vanstenberg est connu pour deux faits d'armes religieuses, dirons-nous, ou de faits d'armes religieux. D'une part, la vive protestation du 20 septembre 1942 face aux lois anti-juives, qui clôt la protestation de la hiérarchie catholique qui s'était par trop longtemps murée dans le silence, qui commence d'être brisée par la prise de position de Saliège le 23 août 1942, suivi de Théas, etc., etc., et qui est donc fermée ou refermée par le très beau texte qui s'appelle Fraternité, publié dans le bulletin diocésain de l'évêché de Bayonne. Les Allemands, nous avons gardé ce document, vont le censurer. Il y a trois passages rouge, voilà. Et à partir de là, le bulletin diocésain ne paraîtra plus avant la libération. Entre-temps, Daguzan, qui n'est pas idiot, va imaginer quelque chose. Il va fonder un tout petit bulletin qui s'appelle « À l'Est », sous-entendu « À l'Est de la ligne de démarcation », qui permet, puisque la ligne de démarcation ne permettait pas à l'évêque de venir à Pau, il l'avait toujours, il devait demander ce qu'on appelle un Ausweis, une permission, hein, pour passer la ligne de démarcation, fonde un petit bulletin qui s'appelle « À l'Est de la ligne de démarcation » pour que la partie béarnaise, qui est la partie non occupée, soit en rapport avec son pasteur qui s'appelle Vastenberg. Donc je veux parler prioritairement de ce texte, c'est sa prise de position à l'égard du SCO, une prise de position précoce et tout à fait héroïque. On peut se demander pourquoi Mgr Vastenberg arrive en 1939 à Bayonne. J'ai une explication, elle n'est pas de moi, elle est d'un historien de métier, tout à fait respectable, Frédéric Lemoigne, dans une très belle thèse qui a été soutenue, enfin pas soutenue, publiée en 2005, qui s'appelle « De Verdun à Vatican II », avec ce jeu de mots, Verdun, Vatican, hein, VV. Hein, alors peut-être c'est le V de la victoire, je ne sais pas. Et, bon, et qui nous dit la chose suivante, je l'ai apprise il n'y a pas tellement, il y a quelques jours, c'est que les autorités républicaines des années 38-39 mettent un point d'honneur à ce que, voyant déjà apparaître un certain nombre de mouvements régionalistes, on ne nomme pas, ici et ailleurs, des évêques qui aient un rapport direct avec le diocèse. Et c'est la raison pour laquelle quelqu'un qui est né donc en Flandre, à Wienenzel, le 26 avril, c'est la seule similitude que j'ai avec lui, je suis né aussi le 26 avril, voilà, 1881, qui est bardé de diplômes. Il est passé par l'Institut catholique de Paris, il a un doctorat de théologie à Rome, il sera docteur ès lettres en 1921, il va produire une thèse remarquable devant un jury difficile et un jury d'excellence. Il y avait au jury Lévi Brühl, Brunswick, Breyer, des grands philosophes de l'époque, hein, voilà, tous des professeurs en Sorbonne, une thèse remarquable sur l'un des grands réformateurs de la fin du Moyen-Âge, dont il était un grand historien, qui était Nicolas de Cuse. Et puis, on l'envoie à Strasbourg. Mais il faut bien comprendre ce que veut dire être envoyé à Strasbourg. On a envoyé à Strasbourg, après 1918-1919, l'élite intellectuelle de la France. Voilà. L'historien que je suis devenu, sait par exemple que deux grands historiens, à savoir Lucien Febvre et Marc Bloch, sont envoyés à Strasbourg. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que la France rivalise avec l'intelligence, le savoir allemand. Donc c'est pas n'importe qui, notre Mgr Vastenberg. Il est envoyé à Strasbourg. C'est-à-dire, il fait partie de cette élite, bien sûr, ecclésiastique. Il va être professeur de théologie morale. Et en 1939, Pie XII le nomme à Bayonne. Il arrive à Bayonne le 18 décembre 1939 et le 21 1939, il est intronisé. Voilà. Donc, je vais le saisir à travers une lutte, un combat, un juste combat. Et je donnerai donc de juste deux sens. C'est que ce combat a été mené au nom de la justice et que ce combat s'est inscrit effectivement dans une démarche de justesse, c'est-à-dire qu'il a été approprié tout à fait au défi qu'il lui a fallu vivre. Puisque la partie des Pyrénées, donc des Basses-Pyrénées, Et là où il habite, Bayonne, elle est occupée, elle est en zone occupée. Donc c'est à travers sa lutte inébranlable qu'il mena au péril de sa vie. Je pense qu'il va jouer une très belle, un beau pied de nez à celui qui l'exécrait complètement, qui était Laval. Je parlerai de Laval et de lui, car Laval a dit de lui que c'était le seul évêque qui l'emmerdait. Et j'ai le texte précis là-dessus. Eh bien, il va, c'est un véritable pied de nez, puisque s'il n'était pas décédé le 10 décembre 1943, qui correspondait au 4e anniversaire du jour de son sacre à Lille par Achille Liénard, il aurait été déporté. Comme il est mort, on cherche effectivement dans l'organigramme des deux vicaires généraux celui qui est résistant. C'est Daguzan, et c'est Daguzan qui va tremper, qui sera effectivement envoyé à Dachau. Vous savez que les Français n'ont jamais prononcé Dachau, c'était aussi une façon de faire de la résistance en disant Dachau et pas Dachau. Voilà. Donc, il lui a enlevé ce plaisir à Laval de le déporter. Mais sinon, il aurait été déporté, c'est sûr, il faisait partie des listes de déportation donc à l'époque. Donc ce texte, je vais essayer, pour le propos qui est le mien, de le dérouler, on va le dérouler ensemble, et on va dérouler ensemble l'élément, les moments clés de mon étude. Ils sont au nombre de 5, ils sont puisés au cœur d'un fonds documentaire qui a échappé à ce jour aux spécialistes qui m'ont précédé. Je ne dis pas ça pour dire que je suis meilleur, pas du tout, mais pour dire que l'histoire est une entreprise collective. Voilà ce que je veux dire par là. Hein. Je suis quand même maintenant assez grand pour ne pas m'attribuer des qualités qui ne sont pas les miennes. Voilà. Hein. Donc l'histoire, c'est effectivement un atelier qui est collectif. Donc ceux qui m'ont précédé n'ont pas eu la chance de tomber sur ce texte que je tire un petit peu de la clandestinité. Il est resté dans le silence des archives pendant 75 ans. Donc il a échappé aux spécialistes qui m'ont précédé, mais permettant de mesurer de la sorte l'attitude du plus haut dignitaire du diocèse au cours de la période ici considérée, et plus particulièrement au moment de l'instauration du SCO, qui sera institué le 16 février 1943. Pour ce faire, si nous avons le temps, et si vous avez la patience, donc j'aborderai successivement un certain nombre de points, ils sont au nombre de 5, je parlerai du document lui-même, qui est très intéressant, un document qui est saisi par l'histoire et par la parole biblique et évangélique, faisant de la référence religieuse, ça c'est le point fort de Wassenberg, hein, le vecteur de la résistance spirituelle du chrétien, du croyant, face à tous les pouvoirs totalitaires. Bon, j'ai employé un mot, hein, la résistance spirituelle. Vous savez que c'est un mot, les deux mots existent, mais ils vont être couplés en 1941, par un groupe de protestants à Pomerol, ce sont les fameuses rencontres de Pomerol, et on va associer les deux. Toute résistance n'est pas armée, il existe une résistance sans armes, ou cette arme d'une autre nature. C'est celle de l'esprit, celle effectivement de la spiritualité, celle des valeurs chrétiennes que nous portons ou que nous ne portons pas en nous, c'est ça que l'on entend par résistance spirituelle. C'est un terme qui est forgé en 1941, par des protestants du côté de Beaucaire, le petit village de Pomerol. Voilà. Le document, donc ensuite, je vais parler de ce document qui a été qualifié de sermon, ce qui est faux, d'homélie, ce qui est faux. C'est une allocution. C'est un discours prononcé le 14-3 1943 à la cathédrale de Bayonne. Et il s'agit donc d'une allocution structurée en 3 parties. Monseigneur Wassenberg était un grand érudit, il connaissait parfaitement les règles de la rhétorique, donc en 3 parties, assorti d'une introduction et d'une conclusion, c'est la lettre au pison, hein, chez Horace, hein, on dit pas, on fait pas mieux. Hein. Et cette facture rhétorique mérite à tous égards considération et attention. Cette allocution fut prononcée en présence des autorités allemandes, et je remercie la personne qui est là, parce que dans le texte, il y a beaucoup de choses dans le texte, il n'est pas dit que cette allocution a été prononcée devant les autorités allemandes, ce qui donne quand même au texte un tout autre relief. Donc des autorités allemandes, et constitue sans conteste une prise de position précoce, courageuse et historique, dans le sens où elle a laissé une trace indélébile, aussi bien écrite qu'orale, inscrite dans l'épaisseur de la mémoire profonde, non seulement du diocèse de Bayonne, mais de la France tout entière. Cet ouvrage que j'ai apporté de 1947 de Mgr Guéry, aujourd'hui décrié, et il faut qu'il soit décrié, parce que c'est une apologie pour dire que l'Église, bon, a toujours été du bon côté, on ne parle pas de ça, ça va nous fâcher, est un livre très intéressant parce qu'il fait la part belle à un certain nombre, je veux dire, de documents de l'époque qui aujourd'hui ont disparu. Parmi les documents sur lesquels ils se fondent, il y a toute une série de passages. Alors comment s'est-il procuré ce texte, je n'en sais rien. Donc il se trouve à la page 72 et 73 où il parlera du gros retentissement de cette allocution, donc à Bayonne, prononcée par Mgr Vassenberg. Le troisième point, c'est que par son contenu, cette allocution a provoqué des réactions indignées, scandalisées, de la presse collaborationniste qui va étriller Mgr Vassenberg, et des autorités allemandes, dont certaines de ces réactions indignées sont parvenues jusqu'à nous. Je ne lirai pas toutes, mais un certain nombre, vous en verrez effectivement la modalité, la tonalité. Ensuite, le choix d'un combat engagé par Mgr Vassenberg pour l'honneur de l'Église et de sa patrie. Et enfin, je finirai par un texte que je dois en partie à l'abbé Goïti. Je cite tout le monde, voilà, parce que j'ai rassemblé beaucoup de choses. Un très beau texte paru il n'y a pas très longtemps qui m'a donné la clé, effectivement, de ce refus total que les séminaristes qui se trouvent à Ispour, dans la fondation Luro, ne partent pas, bien sûr, au SCO. Et nous allons voir la manœuvre de Mgr Vassenberg en 1943. Je finirai par là. Donc un tel découpage, me semble-t-il, devrait nous permettre de nous faire mieux pénétrer dans le parcours de ce prélat atypique, germaniste de prestige et germanophone, mais toutes les fois qu'il avait affaire à la commandanture de Biarritz, il se faisait accompagner d'un interprète, rien que pour embêter les Allemands. Bon, bardé de diplômes, je les ai déjà énumérés, professeur de théologie morale à l'Université de Strasbourg, auteur d'une thèse remarquable devant un jury d'excellence, et également auteur de 222 contributions comprenant ouvrages, articles et recensions échelonnés entre 1913 et 1939, nommé à l'évêché de Bayonne, etc., etc. Voilà, donc c'est de cet homme de Dieu, de cet homme de la France et de la France profonde que je voudrais parler cet après-midi. Tout d'abord, de ce document qu'on a eu la chance de découvrir au bout de 75 ans. Il était resté dans l'ombre, dans la pénombre, dans le silence des archives que j'aime tant, parce que j'ai tant travaillé dans ces archives. À un moment de ma vie, j'ai eu la chance de travailler pendant 3 ans, étant boursier d'une institution de recherche à l'étranger, en Espagne, dont je n'ai fait que ça, travailler midi, matin et soir dans les archives. Donc cette fièvre ne m'a pas quitté, je continue encore de la porter en moi. Alors ce texte est un texte très très intéressant pour différentes raisons. Alors je ne peux pas vous le lire in extenso, mais je vais extraire de ce texte les passages les plus intéressants pour la compréhension de ce que je vais dire après. Parce que ce que je dis après s'appuie sur ce qu'il y a avant. De ce document dont je ne puis prendre, bien sûr, l'entière mesure, je vais détacher quelques extraits qui traduisent parfaitement la tonalité, la finalité dénonciatrice des mots. De l'introduction, je retiendrai l'entrée en matière de la locution qui s'énonce en ces termes, dans les termes suivants. Alors, quand on est un petit peu fin connaisseur de l'époque, vous allez voir toutes les ruses utilisées par Vassenberg devant les Allemands. Et vous verrez effectivement le coup de théâtre qui aura lieu pendant effectivement, cette allocution. Mais je vous laisse, bien sûr, découvrir dans quelques minutes ce coup de théâtre donc de la part des autorités allemandes qui assistent donc en la cathédrale de Bayonne à cette allocution. Le texte commence par, ce début est connu, la France continue de monter son calvaire et à chaque pas de nouvelles souffrances s'ajoutent à d'autres qui semblaient déjà ne plus pouvoir être dépassées. Tandis qu'elle pleure les victimes de la guerre dont la liste s'allonge chaque jour et qu'elle attend en vain le retour de ses fils prisonniers, voici que la fleur de la jeunesse, qui ne demandait qu'à travailler pacifiquement sur son sol, lui est arrachée pour être à son tour déportée en pays lointain. petite ruse de Wassenberg, le mot déportation était interdit. Donc il va mettre un participe passé. Être déporté. Mais il dit ça devant les Allemands. Donc il les accuse. C'est-à-dire qu'il est le premier à dire que le STO, c'est-à-dire on envoie des jeunes, hein, mais nés en 1920, 21, 22, donc en Allemagne, mais ce travail s'apparente, mais tout à fait à quoi ? À une véritable déportation. Donc dès le départ, vous voyez bien la tonalité de guerre, la tonalité offensive, donc de Mgr Wassenberg. L'évêque exprime aussi dans cette introduction combien il comprend l'émoi et partage la douleur des partants et leur déclare sa souffrance de voir ses chers fils aller vers l'inconnu. Aussi, en sa qualité de pasteur, il leur prodigue quelques consignes pour affronter l'épreuve. Les consignes sont au nombre de quatre petits chapitres que je vais décliner. S'ensuit une première partie intitulée « Soyez courageux, votre vie sera pénible », ponctuée par une longue énumération dans laquelle figurent les conditions de vie faites aux travailleurs étrangers, tout ça devant les Allemands, telle la pénibilité du travail et la faim, dont 12 heures de travail, très peu de nourriture, auxquelles s'ajoutent au plan moral l'éloignement, l'isolement du cœur, les incompréhensions et l'humiliation. Face à ce genre de situation, il ne faut pas se laisser vaincre par la douleur, mais faire de cet amer chemin de croix le moyen de se rapprocher, de rapprocher la patrie de celui qui a pu dire « Je suis la résurrection et la vie ». Le chrétien n'est pas quelqu'un de mort, bien au contraire. À cette première partie, rapidement décrite, succède une seconde ayant pour titre « Rester fort dans la foi », c'est la plus tranchante et percutante à mes yeux de toute l'allocution qui va devenir vite insupportable aux oreilles allemandes, Mgr Wassenberg se livrant à une attaque en règle des fondements du nazisme, ce qu'il avait fait déjà le 21 décembre 1939, où il va parler de ces idoles que l'on adore, le sol et le sang. Voilà, en 1939 déjà, il connaît parfaitement l'Allemagne, il y a travaillé, il a beaucoup travaillé avec des théologiens allemands, il est à Strasbourg, donc aux portes, aux premières loges de ce qui se passe en Allemagne, il connaît parfaitement ce qui se passe en Allemagne, et donc il va, bien sûr, pourfendre donc cet évangile de la force, et surtout ce monde fondé sur l'évangile de la haine. C'est un très beau texte paru dans les cahiers clandestins du témoignage chrétien qui parle comme ça, l'évangile de la haine, tout à fait l'évangile de l'amour. Donc il y a une contradiction entre évangile et haine, que tout le monde aura bien pu comprendre. Donc, il se livrant donc à une attaque en règle des fondements du nazisme, on en voudra pour preuve la condamnation de l'obsession des fausses idées dont le poison est partout, tout ça devant les Allemands. Ces fausses idées ne sont autres que celles qu'il avait fustigées sans complaisance le 21 décembre 1939 et qui ont pris le visage du culte des nouvelles idoles qui s'appellent le sang et la race dans un immense pays jadis chrétien, l'Allemagne, devenue effectivement païen, peuplée de faux prophètes, fondés sur la vanité et la supériorité de sa civilisation. Et on croit entendre, bien sûr, ce chant, Deutschland über alles in der Welt, c'est-à-dire la domination, bien sûr, de l'Allemagne. Pour étayer et illustrer son argumentation, il sollicite l'histoire, mais l'histoire sainte, pour mieux montrer le spectacle des faillites humaines, des empires qui se sont construits sur les souffrances des peuples, enchaînés, et c'est son texte, charriant sous le fouet les énormes blocs qui servent à édifier les palais des rois d'Égypte, les gens qui travaillent à l'armement. Donc les Allemands comprennent tout à fait ce qu'il est en train de dire. Ils en font l'analogie tout de suite, ce qui va provoquer de leur part, vous allez voir quoi. Donc, voilà, les palais des rois d'Égypte et des rois d'Assyrie, une telle diatribe contre l'expression brute de la démence apocalyptique de l'idéologie nazie trouve son point d'apogée dans le passage suivant, sur lequel je vais m'attarder plus loin, qui est l'exploitation que fait Mgr Wassenberg du chapitre 5 du livre de Daniel. Une exploitation magnifique, c'en est trop. Bien sûr, pour les Allemands, qui tout d'un coup, de façon ostensible, se lève et quitte la cathédrale. Et Mgr Wassenberg hausse le ton, comme pour leur dire « vous ne m'impressionnez pas », et peut-être aussi pour couvrir, je pense, le bruit de la botte barbare allemande. Voilà. Reste de marbre. Reste de marbre. Hein. Donc, alors que les Allemands quittent effectivement la cathédrale, ça n'est trop. Et je remercie très vivement frère Bernard-Marie de m'avoir communiqué cette information à laquelle se sont jointes. Effectivement, deux autres témoignages depuis, mais ça a été au cours de cette semaine. Dans ce qui ne fait que grandir l'attitude de Mgr Wassenberg et toute sa stature d'héroïque dignité face aux Allemands. De la troisième à la quatrième partie, libellé, gardez vos corps chastes, vos cœurs purs, vos âmes vivantes et soyez apôtres. Je retiendrai l'invitation adressée par l'évêque aux requis du STO à être des témoins du Christ, à imiter le prophète Élie qui, sur le mont Carmel, défie les adorateurs de Baal, c'est-à-dire cette divinité. Nous trouvons 99 occurrences dans l'Ancien Testament. Cette divinité qui venait concurrencer Yahvé, Asherah Yireh, c'est-à-dire ce Dieu qui s'est défini comme ça, je suis celui qui suis, j'étais celui qui était, je serai celui qui sera. Ce que veut dire Yahvé, hein, donc en hébreu. Et donc, voilà, et enfin, afin de mettre un terme à son allocution, il va solliciter une citation tirée du dernier message de Noël 1942 de Pie XII, c'est Pie XII qui l'a nommé évêque, mettant l'accent sur la situation de l'heure présente, qui n'est plus à la lamentation sur le passé ou le présent, mais à la construction d'un avenir. À cet effet, il faut aujourd'hui entreprendre, dit-il, une nouvelle traversée au-delà, ça c'est le texte de Wassenberg, de la mer des erreurs modernes, pour délivrer la terre spirituelle des âmes, non plus la terre sainte comme au temps des croisés, comme autrefois, et y bâtir une nouvelle société solide et durable. Et l'allocution se clôt par l'union dans l'épreuve de l'union des prières. Voici résumé, très rapidement, l'articulation interne de ce texte. Ce qui veut dire que la référence à la Bible va perturber complètement toute la stratégie de Laval face au STO. C'est dire l'importance d'un texte biblique utilisé de la sorte qui va perturber tous les rouages politiques de l'État de Vichy. Voilà. Voilà. Bon, très rapidement. Hein. Alors, comment pénétrer dans ce texte? Et quelles sont effectivement les réflexions qu'il m'a inspirées. Donc de ce texte que je vous ai résumé rapidement, nous ne connaissons pas une chose fondamentale, c'est la gestuelle de Mgr Wassenberg. Comment ce texte est-il arrivé jusqu'à René Schmitt? Nous n'en savons rien. Ce que je peux dire, c'est que, heureusement que ça s'est passé en 1943, car vous savez que toutes les archives ont été brûlées après. Donc si c'était arrivé en 1944, on n'aurait rien eu. On a quelques exceptions. La ville de Pau et les Basses-Pyrénées, l'autre partie du Béarn, est effectivement très bien lotie parce que nous avons eu un responsable de la censure régionale qui, lui, alors qu'on lui avait demandé de brûler des archives, ne les a pas brûlées. Donc nous avons une documentation, je crois, unique, d'une générosité extraordinaire pour effectivement comprendre cette période, bien sûr, en comprenant très bien quels sont les mécanismes idéologiques de cet homme, parce qu'il faut corriger un petit peu ce qu'il dit. Ceci mis à part, nous avons une richesse documentaire extraordinaire qui nous permet de travailler, c'est mon cas, sur un groupe de prêtres. On a dit de Mgr Wassenberg qu'il a été isolé, c'est faux. Il rentre dans la mêlée très tôt et il va soutenir un groupe de prêtres qui est le groupe de la Charrette à Pau, 5 prêtres, parmi lesquels il y a le chanoine Roch, il y a Daguzan, bien sûr, il y a Anat, il y a Émile Viguery, mais un Parisien replié à Pau à l'époque, qui n'est pas n'importe qui est le père Ambroise-Marie Carré, qui va mener depuis Pau toute une guerre très très intéressante contre l'État de Vichy, et qui va prendre position très tôt en ce qui concerne les lois anti-juives de l'État de Vichy. Donc nous connaissons tout ça grâce à cet homme qui a été un obsédé du renseignement. Il a certainement envoyé 3000 lettres depuis Pau à Vichy. Ça va se retourner contre lui parce que trop zélé. Mais il s'en servira lors de son procès. C'est pas n'importe qui, hein. C'est un romancier, un poète de haut vol, pas n'importe qui. Mais grâce à lui, nous avons une documentation extraordinaire. Et donc nous savons effectivement à quel point Mgr Vassemberg a soutenu ce groupe de prêtres sur la ville de Pau. Donc nous ne connaissons pas effectivement la gestuelle de Mgr Vassemberg, le texte ne le dit pas. Et le premier intérêt effectivement de ce texte, c'est qu'il est saisi, bien sûr, par deux champs majeurs. Le champ historique, il est en phase complètement avec ce qui se passe. Et quelle est la réponse de Vassemberg ? La réponse de Vassemberg, c'est la Bible. Voilà. Face à tout paganisme, face à tout totalitarisme, il y a un texte dont la valeur ne passe pas, comme dirait Pascal, qui est effectivement la Bible. Alors, bien sûr, ce texte est un texte de combat face à quoi ? Face à la relève d'une part et au SCO. C'est quoi la relève ? Vous savez que Laval va revenir au mois d'avril, 18 avril, revient au pouvoir, il en a été chassé, il revient, on l'a chassé par la fenêtre, il revient par la porte, et il va instaurer ce qu'on appelle la relève. La relève, ça consistait à envoyer effectivement trois ouvriers spécialistes ou spécialisés. Et les Allemands nous renvoyaient un prisonnier. Mais on s'est rendu compte très vite d'une chose. C'est de la gruge des Allemands, puisqu'ils nous envoyaient, ils nous renvoyaient souvent des prisonniers. Oui, mais des prisonniers malades. Voilà. Et comme ça ne marche pas bien, qu'il n'y a pas assez de bras pour faire tourner la machine de guerre allemande, il faut quand même savoir qu'il y a 8 millions de travailleurs étrangers en Allemagne. Lisez le très beau livre de Cavana, et Marie, cette amourette, enfin, amourette, ce grand amour, hein, puisqu'il y avait une Ukrainienne dans un camp avec lui qui travaillait donc à l'armement. Et bon, il est tombé amoureux, il y a des choses qui arrivent, c'est très bien. Et il nous a laissé un très très beau roman, justement, parce qu'il a essayé de la retrouver bien plus tard, et il l'a retrouvée, mais bon, lui avait fait sa vie, elle aussi, mais c'est pour dire à quel point donc les travailleurs étrangers ont été et donc sont venus prêter main forte en Allemagne. Donc on va instaurer ce que l'on appelle le SCO, le service du travail obligatoire. Au départ, Vichy, qui n'est pas très, très intelligent, au lieu d'appeler ça le SCO, va appeler le SO, c'est-à-dire service obligatoire du travail. Et puis au bout d'une semaine, se rendant compte que c'est eux qui étaient vraiment dans la sottise, ils vont changer tout de suite et ça va devenir le SCO. Ça veut dire que tous les jeunes gens nés en 20, 21 et 22, donc il y a un service militaire de 2 ans, ils vont effectivement être envoyés en Allemagne parce qu'il va il y avoir une loi qui va envoyer ces jeunes donc venir prêter main forte à l'entreprise de l'armement allemand. Et c'est ainsi qu'à peu près 600 000 jeunes, bon, une petite différence, il y en a qui disent 700 000, 600 000 jeunes, partiront donc en Allemagne. Beaucoup d'entre eux vont effectivement préférer les caches, les maquis, mais il faut tordre le cou à une mythologie qui consiste à dire que beaucoup de ces gens-là sont allés dans les maquis. Aujourd'hui, historiquement parlant, on sait qu'il n'y a eu que 10%. Voilà, hein, gagnant bon, l'Afrique du Nord, à travers l'Espagne, s'engager dans les forces libres donc de la France. Donc, Mgr Vassemberg va effectivement prononcer une allocution sur, non plus une protestation, comme on l'a dit trop souvent, mais une condamnation. Il y a un certain nombre d'historiens, notamment Hiller, Marie Hiller, qui avait demandé à l'abbé Favas de travailler sur Mgr Vassemberg. Parle de la protestation de Mgr Vassemberg. Je crois que c'est affaiblir véritablement le sens de ce texte, non. C'est l'indignation, c'est la condamnation. Voilà. Et c'est lui qui, le premier, va accoupler. Hein. Donc, SCO est équivalent à la déportation. Terme qu'on va interdire et qu'il va, effectivement, en rusant, le faire paraître ou apparaître donc dans l'introduction par déporter. Il se trouve que ce texte va très très vite dépasser les limites du diocèse. Il va devenir tout de suite un texte national. Comment a-t-il transité? Je n'en sais rien. Pendant très longtemps, alors il y a une maîtrise, je dis une petite maîtrise parce que la jeune fille, bon, elle a eu 13 sur 20, parce que j'ai retrouvé une lettre d'elle en disant ce qu'elle avait eu pour son mémoire, a fait un mémoire sur Mgr Wassenberg, le seul que je connaisse, et elle a publié donc un certain nombre de documents sur Mgr Wassenberg. Et elle a publié, bien sûr, donc cette allocution. Cette allocution, qui est une allocution tout à fait fautive hein, dans la façon dont elle est écrite, hein, voilà, qui a été publiée en 1945 par la documentation catholique. Alors, je ne sais pas comment on s'est procuré ce texte, parce que le texte originel, on vient de le découvrir. Voilà. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas comment René Schmidt s'est procuré le texte. Est-ce que les autorités allemandes ont demandé à Mgr Wassenberg de le renvoyer, elles l'ont lu avant qu'il soit effectivement proféré en la cathédrale de Bayonne? Je n'en sais rien. Ou est-ce qu'ensuite, on a demandé à Mgr Wassenberg de remettre ce texte? Point d'interrogation pour moi. Toujours est-il que ce texte va devenir une véritable bombe au plan national, au point de déstabiliser complètement l'État de Vichy et qui va plomber véritablement la mécanique des exigences allemandes et jeter le discrédit et l'opprobre sur les mesures adoptées par Vichy. Parmi les réactions qu'il va susciter, il y en a plusieurs. Je vais vous en lire quelques-unes, pas toutes, hein, parce que je ne peux pas, et nous est compté. Alors, donc, pour ce qui a trait à l'allocution de Mgr Wassenberg, il convient de relever certaines des réactions venues de la presse collaborationniste de l'époque. Il est la bête noire, bien sûr, de la presse collaborationniste. Ils n'ont rien de surprenant lorsqu'une telle presse n'hésite pas à écrire à la mort de Bergson, je cite, « Il aurait fallu que jamais Bergson n'ait jamais le droit d'écrire et d'enseigner en français. » Vous savez qu'il était d'une famille polonaise passée par l'Angleterre, bon, etc. Vous vous rendez compte? Si on n'avait pas eu les ouvrages de Bergson, je crois qu'on n'aurait pas eu Proust tout d'abord. Bon, voilà. Voilà ce que dit la presse collaborationniste. Vous voyez où se place, à quel niveau se place la barre de la presse collaborationniste, dont le reste ne va pas, je vais dire, nous effaroucher. Alors, ou lorsque le pilori, le 18 octobre 1942, traite Mgr Gerlier, le primat des Gaules, de talmudiste, traite à sa foi, à son pays, à sa race. Donc vous voyez bien hein, où nous nous trouvons. C'est à un niveau de caniveau. Hein, voilà. Une première salve d'attaque, en date du 3 avril 1943, est à mettre à l'actif du directeur du journal Révolution nationale, Louis Combelle, condamné à 15 ans de travaux forcés à la libération, qui n'a pas manqué de critiquer l'allocution de Mgr Wassenberg dans les termes suivants. Un document sensationnel, hein, cette allocution, qui est l'œuvre d'un prélat imprudent et très dissident, auquel il conseille de demander à Churchill un emploi de speaker. Il parle aussi bien qu'un immigré juif. Voilà, on y est. Deux jours plus tôt, avec son habituelle véhémence, Marcel Déa, fondateur du Rassemblement National Populaire, le RNP, parti d'extrême droite, collaborationniste, avait ouvert les hostilités, s'en prenant ouvertement à l'allocution de Mgr Wassenberg, qu'il tient pour, je cite, « un égareur de profession », comme le confirme le passage ci-dessous. L'évêque de Besançon a récemment émis quelques confortables sottises, mais l'évêque de Bayonne a battu tous les records. Traitant de la relève et du service obligatoire du travail, cet honorable prélat a usé des vocables les plus horrifiques. On imagine de quelle poigne Bonaparte, par exemple, imite aussitôt fin à ses fantaisies, car la chaire n'est pas une tribune politique, du haut de laquelle on est licence de divaguer hebdomadairement contre l'État. Il n'a pas prononcé cette allocution du haut de la chaire, tout d'abord. Et la politique du gouvernement. La religion n'a rien à voir là-dedans, ni le soin des âmes. Les travailleurs qui partent en Allemagne ne vont ni chez les sauvages, ni chez les païens, mais ils vont chez les exterminateurs. Bon, voilà. Donc l'évêque de Bayonne a pourtant l'air de le croire, car il déplore amèrement que des aumôniers ne soient pas prévus, qui puissent accompagner la troupe malheureuse de ces ouailles sans passeurs. Si la presse pro-allemande n'a pas épargné le comportement de l'évêque de Bayonne, le président Laval. Alors Laval a une haine totale pour Wassenberg. Je ne pense pas que la réciproque soit vraie, mais en tout cas, Laval ne peut pas voir en peinture cet évêque. Et il va convoquer Monseigneur Chapouly. Monseigneur Chapouly, il n'est pas évêque, hein, c'est un prélat de sa sainteté. Hein, Monseigneur Chapouly, il est le représentant de l'épiscopat. À l'époque, ça s'appelait l'ACA, l'Assemblée des cardinaux et archevêques, fondée en 1919, et qui est ce qui va préfigurer donc les conférences épiscopales de maintenant. Donc, Monseigneur Chapouly est accrédité auprès de Vichy. Et Laval le fait venir pour lui dire « J'ai vu Schleyer, Schleyer est l'ambassadeur qui a remplacé Abetz, qui est en disgrâce à Paris, et qui m'a dit, et donc Schleyer a dit au président, que les autorités allemandes étaient extrêmement mécontentes de l'attitude que prenaient un certain nombre d'évêques français en face des problèmes des travailleurs, c'est-à-dire du SCO. Il s'est plaint en particulier en termes sévères d'une protestation qui aurait été faite récemment sur ce sujet par l'évêque de Bayonne, et dans laquelle celui-ci emploierait le terme de déportation, qui était interdit. Les autorités allemandes sont décidées à procéder à des arrestations et n'hésiteront pas à commencer par celle d'un certain nombre d'évêques. Si cette attitude ne change pas, le président me dit, c'est-à-dire Laval, dont on disait, vous le savez, que tout en lui était noir, hormis le nœud de sa cravate qui était toujours blanche. Voilà. Donc, il me dit, il faut faire une extrême attention à ce que dit Schleyer, qui n'a pas l'habitude de parler pour ne rien dire. Lui-même s'étonne, dit-il, que les évêques se mêlent d'une question qui regarde le gouvernement, et non pas eux. Ce à quoi je lui réponds, c'est-à-dire Monseigneur Chapouly, que jusqu'à présent, les évêques ont fait eux-mêmes la distinction de se prononcer sur le principe même du départ des travailleurs, considérant cela comme affaire du gouvernement, mais ils ont élevé des protestations en face des abus qui accompagnent souvent ces départs. Laval n'est pas idiot, et il comprend que Chapouly lui tient quand même des discours tout à fait lénifiants. Et donc, les Allemands reviennent à la charge, et on a effectivement connaissance d'un document du 17 mai de l'Office des Affaires étrangères, d'un télégramme qui est envoyé à cet Office des Affaires étrangères, intitulé « Manifeste des archevêques français contre la relève », où l'on peut lire. « En raison des manifestations des princes de l'Église, j'ai déjà fait observer à plusieurs reprises au président Laval et à l'ambassadeur Brino. » Vous savez que Vichy avait un ambassadeur à Paris auprès des Allemands qui était de Brino. Hein, pas Brino, mais de Brino. Hein. Bien. Tout d'abord, il y a eu le général de la Laurencie qui a été ensuite remplacé par Brino. Qu'à notre avis, l'État français ne peut absolument pas tolérer de la part de l'Église catholique une pareille critique des mesures du gouvernement français qu'en cas de récidive de tels incidents, il faudra s'attendre à des mesures allemandes qui ne sont souhaitables ni pour le clergé ni pour le gouvernement français. J'ai fait pour la première fois des représentations dans ce sens, des remontances hein, dans ce sens, à l'occasion du discours prononcé à la fin du mois de mars de cette année, ce qui est faux, c'était au mois le 14 mars, non pas la fin du mois de mars, par l'évêque de Bayonne, Monseigneur Wassenberg, ce qui incita le président à inviter de nouveau Monseigneur Chapouly à venir le voir. Au plan local, que se passe-t-il ? Une semaine plus tard, il se passe quand même quelque chose de très important et très intéressant en la cathédrale de Bayonne. Toutes ces données, ces prises de position contre Monseigneur Wassenberg, les évêques français de la presse pro-allemande ou de la presse allemande, sont tout à fait convergents et concordants et insistent sur l'impact de la prise de la parole de Monseigneur Wassenberg. Il convient d'ajouter qu'à la suite de l'allocution de l'évêque, deux piliers de la cathédrale de Bayonne sont recouverts d'inscriptions stigmatisant l'attitude du prélat. En effet, le 20 mars, dans la soirée, des inscriptions ont été tracées à la peinture rouge sur les piliers placés de chaque côté de la cathédrale. Sur le premier, on peut donc y lire distinctement « Vive l'évêque, vive De Gaulle, vive Staline ». À côté de ces deux inscriptions sont dessinées la faucille et le marteau. Une telle réaction s'explique par le contenu de l'allocution qui a jeté, je cite, René Schmitt, a jeté dans la population, et notamment dans les classes bourgeoises de Bayonne, une émotion considérable, d'autant que l'évêque passe depuis toujours pour être de façon formelle contre la politique de collaboration. Et le sous-préfet, dans son rapport au préfet, Gazagne, d'ajouter ces précieuses informations, d'un côté, certaines personnes se sont réjouies de voir un personnage aussi éminent affirmer publiquement ce que beaucoup pensent. C'est bien ce que les observateurs du temps ont consigné. Ils ont tous souligné le gros retentissement de l'intervention du prélat Bayeux. Pourquoi ce retentissement? Il y a un passage, les Allemands vont comprendre tout de suite que ce passage les condamne, flétrit complètement l'idéologie nazie. C'est un passage, un très beau passage, que Mgr Westenberg, fin bibliste, est allé quêter au livre 5 de Daniel. C'est de ce passage que je voudrais vous entretenir, car ils ont compris tout de suite, lorsque Mgr Westenberg a sollicité ce passage, le lien direct qu'il y avait entre ce passage du passé et la réalité idéologique du présent de la barbarie allemande.
Mgr Edmond Westenberg, 1881-1943, et ses justes combats dans le diocèse de Bayonne-Escaré-Oloron au cours des années sombres 1939-1943, vous venez de suivre la première partie de la conférence de Ricardo Saez, professeur émérite de l'Université de Pau. Une conférence enregistrée le 16 juin 2018 à l'abbaye de Belloc à Urt, que vous pouvez écouter sur le site de Radio Lapourdi dans son intégralité, www.lapourdi.net. La semaine prochaine, sur notre antenne, vous pourrez entendre la seconde et dernière partie de la conférence de Ricardo Saez. Rendez-vous même jour, même heure.